Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce jour sans école, Franck Ferrand a choisi de nous ramener cet après-midi sur les bancs de la communale. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. L'époque n'est pas si lointaine en effet où l'école n'enseignait l'histoire qu'à travers l'exemple de grands personnages. Des personnages choisis avec soin dans des buts très précis. Ainsi, Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Vauban ou Pasteur devenaient-ils les héros de générations d'écoliers?
Je vous sens un petit peu nostalgique là.
Eh oui, un peu. Surtout lorsque je feuillette le superbe album que Daniel Picouli consacre ces jours-ci à ses icônes scolaires. Un album où l'on voit Clovis briser le vase de Soissons ou Bonaparte franchir le pont d'Arcole. Vous allez voir, Fatima, oui. Ces vignettes ont quelque chose de très poétique.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il y a une centaine d'années, la plupart des petits Français apprenaient à lire dans un ouvrage qui était incontournable à l'époque. Il était devenu, avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus, un véritable mythe éditorial. Le Tour de la France par deux enfants. Cet ouvrage publié, ce manuel devrais-je dire, publié pour la première fois au lendemain de la défaite de 1870 et qui était avant tout un manuel de lecture morale, entendait sensibiliser des générations d'élèves à ce qui fait le bonheur de vivre en France, c'était en tout cas le sous-titre, c'était tout le programme de cet ouvrage. Son auteur, G. Bruno, c'était le pseudonyme d'Augustine Fouillé, mettait en scène deux jeunes orphelins lorrains, André et Julien Volden, qui sillonnaient la France en essayant de s'initier à ses beautés, du Mont-Blanc au Mont-Saint-Michel, des Calanques de Marseille à la cathédrale de Reims. Il n'est pas indifférent que les deux orphelins aient quitté leur village natal de Phalsbourg, qui se situait dans la partie annexée de la Lorraine, la partie que les Prussiens avaient annexée après la déroute de 70-71. Les deux orphelins en question partaient à la recherche de leur oncle paternel, Franz, qu'ils pensaient se trouver à Marseille, mais qu'ils finissaient par retrouver à Bordeaux. Et c'était bien sûr à chaque fois l'occasion de découvrir non seulement une nouvelle province, mais toutes les mœurs qui allaient avec, et puis au-delà des métiers, des savoir-faire. Enfin bref, une sorte de patrimoine fondamental. Le périple s'achevait dans une ferme de l'Orléanais, la Grand-Lande, où les deux enfants vivaient à partir de là avec leur oncle Franz, avec le pilote d'un bateau naufragé qui s'appelait Guillaume, avec sa famille. Tout ce monde-là attendait quoi ? Attendait une revanche, puisque le texte s'achevait sur la nouvelle guerre, celle que tout le monde attendait et celle qui était supposée reprendre à la nouvelle Allemagne les provinces perdues de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Alors, cet immense périple, c'est un véritable parcours initiatique qui était proposé aux enfants des écoles, parcours à travers la géographie de la France. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à la même époque, on proposait aux élèves un parcours du même ordre, à travers l'histoire de France, parcours jalonné de véritables balises. Ce chemin, ce voyage assez mythique, un album, un très bel album, nous le restitue ces jours-ci, en tout cas dans ses grandes lignes. Cela s'appelle « Nos histoires de France » et c'est signé de Daniel Picouli qui nous propose une sorte de bain, j'allais dire de bain de jouvence. En tout cas, Daniel Picouli, vous nous proposez de nous replonger dans ce qui était l'imaginaire de générations entières d'enfants. On est à la grande époque de l'école de la Troisième République.
Oui, celle qui avait un espèce de partagé commun, c'est-à-dire que ces héros, on avait les mêmes héros que nos parents. C'est-à-dire que ce qui était assez extraordinaire et qui, je trouve, manque aujourd'hui, c'est qu'on pouvait parler de Jeanne d'Arc, de Clovis.
Tout le monde savait à peu près de qui on parlait.
Voilà, et chacun même avait son idée. Ce qui faisait qu'il y avait des Clovis, il y avait des Jeanne d'Arc à foison. Donc ça, c'était quelque chose de très très important parce qu'il y avait un lien, on se transmettait ces héros de père en fils. Et je trouve qu'aujourd'hui aussi, ça c'est quelque chose qui s'est perdu.
Et non seulement c'est quelque chose qui s'est perdu, mais on a envie de dire que c'est un lien qui manque. Lorsque, très souvent, et les auditeurs d'Europe 1 le savent bien, je m'amuse à changer un peu leur regard sur un personnage ou sur une époque de l'histoire, lorsque j'attaque la statue de Jeanne d'Arc ou celle de Vercingétorix précisément, je présuppose un acquis. Oui. Nous faisons tous comme si chacun savait exactement déjà qui est Jeanne d'Arc ou qui est Vercingétorix. Or, ce qu'on découvre, c'est que cet acquis-là, il a tendance à s'effriter et parfois même à disparaître complètement. Qui étaient ces héros de l'histoire de France et comment pouvons-nous leur donner une sorte de nouvelle jeunesse? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant, Daniel Picouli.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et aujourd'hui, pour nous parler des héros de l'histoire de France, Franck Ferrand reçoit Daniel Picouli, présentateur télé, mais aussi écrivain, auteur de « Nos histoires de France », Webek, paru en octobre 2011.
Cette histoire de France mythologisée, portée jusqu'à la légende, vous nous la présentez, Daniel Picouli, dans un très bel album qui est plus que richement illustré, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Les images se taillent la part du lion dans cette affaire. Vous appelez ça « Nos histoires de France » parce que vous dites que chacun y voyait son histoire. Ce que vous racontez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre propre préface. C'est d'abord l'histoire vue par un cancre.
Ah oui, c'est le cancre que j'ai été et que je revendique et qui me constitue encore aujourd'hui, parce que mon regard sur l'histoire de France a été celui d'un gamin mis au piquet. C'est-à-dire que moi, si j'ai vu l'histoire de France de très près, si les héros étaient, j'allais dire, sous mon nez, c'est parce que j'étais collé dans un coin et que je devais être là, les mains sur la tête.
Vous dessus.
Voilà. C'est ce que je veux raconter. Et en même temps, quand je dis nos histoires de France, c'est comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que quand je rentrais à la maison et que je faisais réciter mes leçons et que ma mère me poser des questions, elle était capable d'avoir son avis sur Jeanne d'Arc, sur Clovis, sur Vercingétorix.
Il faisait presque partie de la famille.
Ah ben absolument, mais il faisait, et donc il y avait autant de points de vue. Mon père avait son point de vue sur l'histoire de France, mon père avait une fâcheuse tendance à me raconter l'histoire de France en couleur, c'est-à-dire que le comité d'origine martiniquaise, il me parlait des héros noirs que je ne trouvais pas dans les
manuels.
Vous
dites d'ailleurs, à un moment, j'aime beaucoup cette phrase, vous dites, je réalise, vous avez 12 ans à peu près, qu'il n'y a pas de roi de France noir.
Oui, voilà, c'est ça. Alors je trouve un roi de France qui a comme surnom d'outre-mer, et je rêve sur ce surnom d'outre-mer. Et bien évidemment, ça n'est pas un roi noir, c'était quelqu'un qui s'était réfugié en Angleterre plutôt sur le mode de Gaulle que sur le mode exotique. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on ne regarde pas l'histoire de France de façon objective. Moi, je trouve ce qui peut tuer l'histoire de France, c'est de considérer que c'est une espèce de science exacte vers laquelle on doit aller et qu'on doit retrouver des personnages tels qu'ils ont existé. Non, c'est fantasmatique, c'est romanesque, c'est familial.
Ce que vous êtes en train de tout simplement de définir, c'est l'histoire elle-même. Mmh. Après tout, l'histoire n'est jamais qu'un récit. Et il y a autant d'histoires que d'auteurs, quasiment.
Et de réécriture. C'est-à-dire que je dis, quelque part, en plaisantant, que tous les livres d'histoire devraient commencer par « Il était une fois ».
Parce
que c'est un conte. Et j'ai écrit des romans pour montrer que la réécriture de l'histoire était quand même un art extrêmement partagé. Que Napoléon a été, par exemple, un des grands personnages réécrits en permanence. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est de montrer qu'on peut se réapproprier l'histoire et que quand on en fait sa chose personnelle et même familiale, on est des fois plus près de la vérité de ce que l'on a perçu quand on était enfant. Et c'est ça qui m'intéresse.
Vous savez, Daniel Picouli, que vous prêchez absolument inconvaincu, puisque à ce même micro, nous avons pendant un certain temps présenté une émission qui s'appelait « Mon héros dans l'histoire ». Et ce que je demandais, c'était à mes invités, qui étaient vraiment très variés, d'horizons très très divers, de me dire quel était le personnage, parce qu'il fallait bien en choisir un, le personnage de l'histoire qui les avait inspirés ou au contraire qui leur paraissait être un contre-exemple. Bref, le personnage le plus mythique à leurs yeux. Chaque époque a eu ses mythes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les héros glisse, si je puis dire, certains vers la sortie, d'autres vers la lumière, et qu'en fonction des périodes, eh bien, il y a des héros différents.
Oui, parce que l'époque a besoin de héros, et aussi l'époque, il y avait des époques qui ont eu besoin de mettre en mouvement les gens, le peuple. C'est-à-dire que quand on a fait des figures, moi je trouve ça assez extraordinaire que se dire que Jeanne d'Arc n'a été, j'allais dire, canonisée que dans les années 1920.
Et oui, c'est très tard.
C'est très très tard, alors que quand on nous la présente dans l'histoire de France,
c'est comme si elle
était
née sainte.
Voilà, voilà, absolument, elle est née sainte. Donc ces choses-là sont intéressantes. Récente aussi à appréhender, ça veut dire qu'on a à un moment donné décidé qu'on avait besoin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est connaissant cette histoire-là, on voit comment on peut, et Jeanne d'Arc en est un très bon exemple, réutiliser un mythe, se réapproprier un mythe.
Regardez Napoléon, lorsqu'il masse ses troupes des centaines de milliers de personnes sur les frontières nord-ouest pour aller envahir l'Angleterre, il ne trouve rien de mieux que de ressortir la fameuse tapisserie de Bayeux qui montre la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Mmh. Et en quelques semaines, Guillaume devient le héros numéro un de l'histoire de France simplement parce que Napoléon a besoin d'un modèle dans l'histoire,
absolument,
d'un précédent.
Et que quelques années, bien des années plus tard, on en écrit un très beau roman sur l'idée qu'il manque un maître à la tapisserie de Bayeux et que peut-être le secret est là. Donc moi, c'est tous ces petits inserts romanesques qui
m'intéressent. Ce que vous dites, c'est que tout ça n'est pas seulement le fruit d'un apprentissage apprentissage à l'école. Il y a ce qu'on apprend à l'école, mais il y a tout ce qui vient du dehors aussi.
Bien sûr, hein. Bien sûr. Et tout ce qui vient de la famille. Moi, chez moi, j'avais l'impression que j'avais mille et un avis à chaque fois sur un personnage. Et c'est ça qui m'intéressait. Et même des choses, moi, je dis, comment on se réapproprie l'histoire. Moi, j'avais Roland de Roncevaux. J'ai un frère qui s'appelle Roland.
Ah oui, tiens, oui. J'ai dis oui parce que tout en vous parlant, je feuillette l'album et je viens de tomber tout à l'heure sur une très belle image. On en dira un mot dans un instant de ces images. Alors, Roland, donc.
Voilà, Roland, mon frère s'appelait Roland. Et il s'était quasiment accaparé ce personnage. Roland de Roncevaux, c'était lui. Donc, c'était mon frère Roland. Son épée avait obligatoirement été fabriquée à Air France par mon père dans un métal particulier puisqu'il avait volé dans l'espace selon le mythe.
Durandal.
La Durandal avait volé sur une centaine de kilomètres pour se ficher dans une place où elle est encore aujourd'hui. On peut,
dans les Pyrénées.
Voilà, dans les Pyrénées. Et c'était devenu, quand je voyais cette fameuse image où il souffle, qu'est-ce que je voyais ? Je voyais une épée que mon père avait forgée et un garçon que mon père serait allé sauver. C'est-à-dire que c'était plus Roland de Roncevaux qui était en danger, c'était mon frère. Et on était dans cette mythologie familiale qui fait qu'un père va sauver son fils. Et on était, et quand on racontait l'histoire de Roland de Roncevaux, j'avais le sentiment qu'on racontait un petit bout d'une histoire de notre famille.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et la partie magazine qui se poursuit jusqu'à 14h avec l'invité du jour, Daniel Picouli.
Et je continue de feuilleter ce très bel album, Nos Histoires de France de Daniel Picouli. Là, je suis au siège de La Rochelle avec un Richelieu et un Louis XIII plus mythologique que de nature. Richelieu avec son armure, sa cape rouge vif, tout ça est très spectaculaire. D'où sortent-elles ces belles images?
Alors, Daniel, ces belles Picouli images, ce sont des images que l'on présentait dans les classes, des planches que l'on accrochait au tableau. Il y avait ces deux petits crochets.
Qui était censé marquer les esprits.
Marquer les esprits et qui était remisé dans ce fameux cabinet d'histoire où j'ai eu la chance d'être tant puni que l'histoire, je la connais de cette manière-là, et qui était une espèce de récompense. Et le professeur, enfin notre instituteur, puisque c'était à cette époque-là un instituteur, choisissait pour nous certaines planches. Et en plus, il y avait tous ces fameux tableaux synoptiques où on avait aussi tout un siècle qui était représenté. Mais ces images, on allait les regarder, on avait le droit de défiler devant. Je me souviens d'un instituteur qui nous faisait défiler un à un devant ces images pour qu'on s'en imprègne. Et on retournait ensuite à notre place pour en parler tous ensemble. Et c'est là qu'on voyait qu'il y avait mille et un avis sur une planche comme celle que vous avez sous les yeux.
La monarchie absolue.
Voilà, qu'est-ce qu'on avait retenu ? Qu'est-ce qu'on avait retenu ? Est-ce qu'on avait retenu la splendeur ? Ou au contraire, on se posait la question, comme moi, petit-fils d'ouvrier, bon, d'accord, la monarchie absolue, où ils étaient les gueux, où ils étaient les serfs, qu'est-ce qu'on faisait des gens
pauvres ?
Et là,
sur la planche que j'ai effectivement sous les yeux, c'est un aspect de la monarchie absolue, son rapport à la religion. Mm-hmm. Et je trouve que pour une école républicaine, et d'ailleurs très anticléricale, disons-le, il y a une volonté d'objectivité, puisqu'on nous montre l'Église, en l'occurrence, sous ces deux aspects. Alors à gauche, vous avez la perception de la dîme, les églises somptuaires, les sermons interminables, la fête Dieu, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez l'hôpital, l'école de village, l'école des filles, la volonté de l'Église d'émanciper, etc. Et en dessous, vous avez le temple protestant, avec à droite la tolérance, et l'on voit évidemment Henri IV signant l'édit de Nantes, et puis à gauche, l'intolérance avec la Saint-Barthélemy. Finalement, c'était tout simple, c'était sans doute très réducteur, mais comme c'était parlant et pédagogique.
C'était parlant, réducteur. Réducteur, c'est... Moi j'ai plutôt le sentiment que c'était une histoire qui était à notre portée. C'est-à-dire une histoire, aujourd'hui on dit réducteur, quelque chose que l'on pouvait comprendre. Je ne vois pas l'intérêt de présenter l'histoire de France à des gamins de 10 ans de façon aussi conceptuelle ou globale que ce que l'on fait actuellement. Moi, ça me suffisait, moi, cette idée de cette monarchie absolue.
On faisait son choix là-dedans.
Voilà. Après, on ferait le tri même, surtout. Voilà, bien sûr. Et puis, il faut dire, là, vous parlez de la religion, mais on allait tous au caté. On allait tous au caté, c'est-à-dire qu'on entendait parler de Jeanne d'Arc,
de Saint-Louis. Il y avait toute une histoire religieuse aussi qui fait partie de la culture.
Bien sûr.
Si chacun reconstruit son histoire, on peut dire que chacun reconstruit ses héros. C'est en tout cas le postulat dont est parti Alain Corbin pour écrire ce très joli ouvrage « Les héros de l'histoire de France expliqués à mon fils » qui sort ces temps-ci au Seuil. J'ai profité l'autre jour du passage d'Alain Corbin dans ce studio pour le faire réagir au constat suivant. Je lui ai dit « En fait, Alain Corbin, on ne naît pas héros. » On le devient.
fabrication des héros est un objet historique extrêmement intéressant parce que chaque période propose ces types de héros et les ressorts de l'admiration possèdent leur historicité.
Est-ce que certains ont la cote à une certaine époque et la perdent à une autre ?
Oh, c'est très simple. Moi, on m'a appris à admirer Bayard.
Par exemple, oui. Le chevalier sans peur et sans reproche.
Bayard, aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Et on parlera plutôt de l'abbé Pierre, de Martin Luther King, je ne sais pas. Hein. Il y a eu les héros selon Plutarque, il y a eu les grands hommes des Lumières, il y a eu les fondateurs, les héros romantiques, etc. Et puis l'effondrement de certains.
L'historiographie du milieu et de la fin du XIXe siècle a joué un rôle essentiel dans la constitution de ce qu'on appelle le Panthéon français, qui a un peu de plomb dans l'aile depuis quelque temps.
Oui, c'était la construction entre Michelet et Lavis, disons, du grand roman national, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a tendance à être remis en cause parce que la France n'est plus la grande puissance qu'elle était, parce que le présentisme fait qu'on s'intéresse moins à la profondeur historique, parce que toute une série de raisons, parce qu'il y a des panthéons qui sont effondrés, les héros coloniaux sont évidemment effondrés, les héros des champs de bataille avec les guerres coloniales perdues par la France, etc., n'ont plus la cote. En revanche, tout ce qui concerne la compassion, tout ce qui concerne... c'est ça. C'est surtout le compassionnel, je crois, aujourd'hui, qui correspond au désir d'admiration.
Elle est en train de sortir des programmes scolaires, mais on peut dire qu'une héroïne, qui d'ailleurs est l'héroïne nationale, comme Jeanne d'Arc, est assez intemporelle, en tout cas... Depuis la fin du XVIIIe siècle, elle n'a pas...
Oui, c'est très curieux. Dans tous les sondages d'opinion que j'ai regardés concernant l'extrême fin du XIXe siècle ou le sondage de l'IFOP du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jeanne d'Arc est là. Jeanne d'Arc est là, elle est là, même dans la profondeur sociale. Les paysans, par exemple, dans ce sondage, sont encore plus admiratifs que le reste de la population. Oui,
chacun l'admire pour des raisons différentes.
Ah, bien sûr.
C'est la polysémie du héros.
Ah oui, parce qu'il y a les républicains, après la guerre de 70, qui disent que c'était une libératrice du territoire, etc. C'est la grande républicaine, par avance, selon Michelet. Et puis, au contraire, les catholiques, Monseigneur Dupont-Loup, veulent en faire évidemment une sainte avant tout, envoyée par la Providence. Elle est à nous, s'écrit Léon XIII à la fin du siècle.
Qui va fabriquer désormais les héros, la télévision ?
Ah, qui fabrique les héros, ça c'est un... Je pense que il n'y a plus de héros, il y a des gens qu'on préfère. D'ailleurs, c'est très caractéristique, les sondages d'opinion aujourd'hui ne disent pas quels sont pour vous les héros le plus souvent, mais quelles sont les personnalités préférées. Alors, la personnalité préférée, c'est le comme tout le monde. J'avais été très intéressé par la place éminente, je le comprends, c'est en 2005, dans un sondage concernant
les héros préférés des Français.
De Bourvil. Parce que Bourvil, il est d'extraction humble, il est gentil, il est tendre, il est bon acteur, il est comme tout le monde, et il s'est montré très courageux dans sa maladie. De ce point de vue, il a toutes les qualités, oui.
C'était ce fameux sondage où Édith Piaf arrivait entre, je crois, le général de Gaulle et Louis XIV.
Oh ben de Gaulle est toujours là. Mais il n'était pas là dans les années 60, par exemple. Ou du moins, quand je dis 60, non, à la fin des années 40.
Il faut que les choses se patinent 40. Un peu.
Ah oui.
Merci beaucoup, Alain Corbin. Quel héros choisit ou choisira cette époque dominée par le présentisme, nous dit Alain Corbin. C'est ce que nous voyons dans un instant avec Daniel Picouli.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est assez effrayant ce que nous dit finalement Alain Corbin, Daniel Picouli. Il nous dit qu'on n'a même plus envie de se fabriquer des héros aujourd'hui.
On s'en fabrique d'autres, oui. Ce terme de présentisme qui donne l'impression que les héros ont des dates de péremption extrêmement rapprochées maintenant et qu'on en change à chaque nouvelle série télévisée. Oui, et en même temps, il y a ce mouvement qui pourrait paraître paradoxal d'un attrait énorme pour l'histoire. l'histoire, pour les romans historiques, pour les magazines.
Mais nous en sommes la preuve vivante.
Voilà. Donc il y a à la fois, peut-être que c'est cette notion de héros s'imposant à tous, et j'allais presque dire ayant quelques relents scolaires, à savoir ayant été imposés par l'institution scolaire qui ont disparu. Mais les héros, et quand tout à l'heure il était cité l'abbé Pierre, à une époque c'était Saint-Vincent de Paul, et c'était un pendant.
Oui, ce sont les mêmes.
Ce sont les mêmes, voilà, exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une régénération des héros. Ils ont, j'allais dire, on a changé leur visage et leur nom, mais je veux dire, ce qu'ils représentent, l'archétype qu'ils représentent est toujours le même. C'est-à-dire que Bayard, c'est-à-dire ces gens courageux, ce chevalier sans peur et sans reproche, peut être aujourd'hui, et ça pourrait paraître à minima, investi par un footballeur ou un rugbyman. Et il peut avoir la même fonction.
Est-ce que ça... Alors la fonction est strictement identique, vous parlez d'archétype, mais est-ce que ça a la même valeur en revanche? C'est ça la question.
Alors la valeur, la pérennité en tout cas de la valeur, voilà, certainement pas. C'est-à-dire qu'on aura du mal. Ce qu'il y avait de formidable dans les héros, c'est cette façon de les transmettre.
C'est ça.
C'est-à-dire cette intemporalité. C'est-à-dire les transmettre de génération en génération, avec des amodiations, avec des modifications, avec des transformations. Mais on se les transmettait, comme on se transmettait des bijoux de famille, des meubles. Et on ne fait plus ça aussi. Il y a même la notion de transmission qui disparaît. Et donc, on a une espèce de régénération régulière d'héros qui fait qu'au lieu de la transmission, c'est de la séparation, de la coupure. Nos enfants ont des héros qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas et vers lesquels on doit aller.
Donc on est bien dans une question de communication, de communicabilité, pour employer un terme un peu barbare. Ce sont bien des socles et des éléments communs qui vont finir par faire défaut. Dans le langage, dans les références esthétiques, dans les héros aussi, donc dans la référence temporelle.
Oui, et parce qu'en fin de compte, c'est le mot est joli, le présentisme, mais c'est en même temps du consumérisme, c'est-à-dire que l'on consomme les héros. On est dans une époque où on doit consommer et donc faire disparaître, et on consomme et on consume. Donc les héros sont consommés très très rapidement. Et
on est vraiment entre deux pages de publicité.
Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais parce qu'on est, dans cette logique-là, on est dans ce type de société-là, mais ça ne veut pas dire, et c'est ça qui est important, que les valeurs qu'incarnaient ces héros ont disparu et que l'on n'a plus besoin ou que l'on n'est plus intéressé ni mis en mouvement par ces valeurs. Au contraire, mais ils sont incarnés autrement parce que d'abord, il y a une acculturation, il y a moins de balises,
il y a moins de références.
Voilà.
Là, j'ai sous les yeux deux cartes qui concernent la Révolution française, donc Paris pendant la Révolution. Honnêtement, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, y compris des historiens qui arrivent au moins au niveau de la maîtrise et au-delà, seraient capables de s'y repérer aussi bien que les... Pourtant, c'était destiné aux écoles primaires, hein, faut
Absolument.
Préciser ça. Et puis là, la France révolutionnaire, même chose. C'est-à-dire que vous avez d'un seul coup, vous sautant aux yeux, un certain nombre de notions qu'une très grande majorité, non seulement d'élèves ou de lycéens, mais même d'étudiants aujourd'hui, ne seraient même plus capables d'ingérer, si je puis dire.
Oui, mais c'est ce qui est stupéfiant quand on regarde ces images. Et il y a aussi des tableaux récapitulatifs, des dates que l'on devait apprendre.
Voilà, même chose.
C'est sidérant. C'est-à-dire que c'était ce que l'on demandait aux élèves du primaire à cette époque-là. Aujourd'hui, certains vont essayer ou vont essayer de comprendre, mais vont dire c'est pas possible. Eh bien, c'était ça. C'est vrai qu'on nous faisait apprendre ces listes de dates. C'est vrai qu'on savait ça. C'était à l'époque. Bon, il y avait aussi des choses caricaturales comme apprendre les départements, les sous-préfectures, les préfectures. D'accord. Mais en tout cas, notre machine tête, notre mémoire et tout ça fonctionnait. Et c'était de très très bons exercices, j'allais dire mémoriaux, des exercices qui nous ont souvent...
C'était une gymnastique de l'esprit.
C'est l'expression que j'emploie avec ma fille, je lui dis c'est les abdominaux de la tête.
Si on voyait
combien notre cerveau est relâché parfois, on serait un petit peu inquiet. Donc on est dans cet ordre de pensée-là, oui.
Antidote au relâchement, je vous propose quelques extraits de cette émission Mon héros dans l'histoire, où toutes sortes de personnalités venaient nous parler de leur héros. En l'occurrence, Maître Vergès nous parle de Jeanne d'Arc, Alain Decaux de Victor Hugo et Christine Orban de Madame de Staël.
Jeanne d'Arc est un personnage qui représente en France un sursaut parfois miraculeux. Il y a quelque chose de magique dans l'histoire de Jeanne d'Arc, ou de miraculeux, ne parlons
Peut-être
pas de magie.
Peut-être aussi dans la façon dont on l'a raconté, ça c'est
Mais
une autre histoire.
Cette jeune femme, cette paysanne, qui s'impose parmi un public de nobliaux, cette femme qui s'impose parmi un public de reîtres, c'est fantastique, c'est incompréhensible au départ, et pourtant ça s'est fait. On admire les héros, mais on ne les aime pas forcément. Il y a des héros de marbre. Là, nous avons une héroïne, et c'est une héroïne humaine. Quand elle appelle Jésus trois fois, Est-ce que cela ne rappelle pas Jésus appelant son Père trois fois, avec la même interrogation angoissée, « M'as-tu abandonné ?» Bon. Et quand elle signe ce document pour aller dans une prison ecclésiastique, donc c'est un personnage
qui est messianique,
fois,
disons-le.
Qui à la fois appelle notre admiration et appelle notre amour.
Alain Decaux.
Les idéaux de Victor Hugo ont beaucoup changé. Et on le comprend quand on étudie sa vie. Il était le fils d'une dame qui, elle, était royaliste. Et elle se présentait comme vendéenne, qu'elle n'était pas du tout, d'ailleurs.
Elle était vendéenne de cœur par royalisme. Et le parrain de Victor aussi, d'ailleurs, était un royaliste bontain. Son père, en revanche, avait été l'un des grands serviteurs de Napoléon.
C'est vrai, voilà.
Et lui-même, après ce double baptême monarchiste et bonapartiste, lui-même est devenu un héros républicain. Alors, puisque vous nous parlez de la mère de Victor Hugo, il faut revenir un peu sur cette enfance assez étrange et sur ses frères dont on ne dit jamais rien. On peut dire que Victor aura complètement éclipsé ses deux frères Abel et Eugène.
Oui, Abel était l'aîné et l'aîné respecté par Victor. Et Eugène, malheureusement, qui lui aussi avait des goûts d'écrivain.
C'était un artiste.
Il voulait faire des poèmes, il en faisait parallèlement à Victor. Et il s'est rendu compte que les siens étaient moins bons et il est devenu fou. Ça, c'est une chose atroce. Il a fini ses jours dans un asile d'aliénés. C'est très triste.
Christine Orban.
Germaine de Staël, c'est tout de même une femme, enfin pour moi, c'est très importante pour le libéralisme et la libération aussi des femmes. Elle a été une des premières femmes presque politiques, je pense. Elle aurait pu être la première femme ministre. Elle avait une analyse politique très juste. Si Napoléon ne l'avait pas détestée à ce point-là, enfin, je pense que...
Alors,
vraiment...
parlons-en de cette relation avec Napoléon, qui est incroyable. Au départ, elle adore Bonaparte.
Elle
est la première fan,
mais
si on peut dire.
Moi, je pense même qu'il la déteste parce qu'elle veut le séduire et qu'il la trouve laide et qu'en plus, on peut le dire quand même assez misogyne.
Ah oui, très misogyne.
Très misogyne. Et que cette femme brillante, cette femme qui en plus essaie de le charmer, je crois que la première fois qu'elle le rencontre, elle lui dit « Quelle est pour vous la femme la plus importante du monde ?» Et Napoléon lui répond « Celle qui a beaucoup d'enfants. » Évidemment, c'est une gifle à Madame de Staël qui, elle, veut exister par son esprit et pas juste être une mère au foyer.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Ce que vous me disiez à l'instant, Daniel Picouli, en écoutant ces quelques petits extraits de Mon héros dans l'histoire, c'est que finalement, ce qui plaît aussi bien aux personnalités célèbres qui venaient là s'exprimer qu'à tout le monde, finalement, c'est que c'est bien l'enfant qui est en nous qui ressort.
Oui, l'enfant qui a le droit de parler.
C'est ça.
L'enfant qui a le droit de dire « j'ai été constitué par ces héros ». Et si même aujourd'hui ça ne se voit pas, et si même aujourd'hui on aurait presque honte à en parler, ils m'ont constitué très profondément. Et parfois, je reste fidèle même à ces héros, même s'ils m'ont été présentés d'une manière aujourd'hui que je pourrais remettre en question.
Si on vous avait proposé, lequel seriez-vous venu présenter, vous, Daniel Picouli ?
Alors, curieusement, curieusement, parce qu'il est dans tous mes livres, c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire que le général de Gaulle a été la personne qui a permis au petit gamin que j'étais de donner une explication à la disparition de mon père. Mon père partait pour aller travailler, il avait 13 enfants, il fallait qu'il les nourrisse, il travaillait beaucoup, il rentrait tard. Et ma mère avait instillé dans mon esprit que mon père partait parce qu'il avait à sauver le général de Gaulle. Et que mon père c'était comme son deuxième métier. Et j'ai passé mon temps dans les ouvrages à faire en sorte que mon père sauvait le général de Gaulle. Et c'était tout simplement un héros que je m'étais fabriqué pour expliquer et justifier les absences de mon père.
Là, c'était un héros historique dans l'actualité. On refait un petit tour avec Bernard Werber qui nous parle de Nostradamus, Marc Lévy de Saint-Exupéry, Michel Rocard d'Henri IV... Et Richard Bohringer, vous allez voir.
souvent, ce qu'on a retenu de Nostradamus, c'est son côté prévision, c'est quantique. Mais en fait, l'homme était un homme passionnant qui s'intéressait à tout, qui parlait beaucoup de langues.
Un esprit universel, on peut dire.
Qui avait énormément d'humour, qui aimait faire la fête, qui connaissait la médecine, qui a fait des découvertes médicales réelles, qui s'intéressait à la gastronomie, qui s'intéressait à la beauté, il a fabriqué des maquillages, des onguents,
il avait fait des parfums. Un traité des fards et des confitures. On ne s'attendrait pas à voir Nostradamus sur un sujet pareil.
Il a même synthétisé des parfums, je crois que c'est le bois de santal. Il a été le premier à arriver à faire du parfum de bois de santal. Et il a fabriqué notamment, il faisait des collections de confitures de coin.
Marc Lévy.
Moi, ce qui m'a le plus marqué et fasciné dans le personnage de Saint-Ex, c'est que finalement, l'aviation, à mes yeux, c'est peut-être mon rêve d'enfant que je transpose, mais à mon avis, pour moi, sa vie de pilote n'est que l'expression de l'extraordinaire appétit de liberté que portait cet homme. Et pour moi, quand on est très amoureux de la liberté, on est aussi et également nécessairement très amoureux de grandes valeurs humaines. De valeurs fondamentales. On ne peut pas être amoureux de la liberté sans être épris de valeurs humaines, de respect de l'autre, d'amour de la différence, d'amour de la tolérance. Je pense qu'il y a un respect de la liberté qui fait que l'on peut être un grand amoureux de la liberté. Je crois que Saint-Ex en était un.
Michel Rocard.
Je suis tombé sur Henri IV à propos d'autre chose. La poule au pot.
Ah oui.
C'est le premier roi probablement dans toute l'Europe, qui se met à parler d'économie, qui évoque le bien-être des familles, des ménages, comme on dit en comptabilité nationale maintenant, bref, des Français de base. Et ce premier regard sur le bien-être, sur l'économie et sur le développement, c'est inouï, c'est prodigieux.
Bon, avec Olivier de Serres et l'agriculture, avec tout ça, bien sûr.
Absolument. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. C'est prodigieux.
Richard Bohringer.
Je ne sais pas, quand j'avais 20 ans, si j'avais tout compris d'Arthur Rimbaud. Je sais qu'il y avait une chose qui m'éblouissait totalement, c'est qu'à 20 ans, il avait mis le point final
à l'écrit. Lui avait fini à 20 ans.
Et que, à mon sens, il est humain, il est humain. Mais il y a quelque chose d'obscur dans ce jeune homme. Il y a, comme s'il était, à 20 ans, s'il avait été la réincarnation de 1001. Autre humain, quoi. C'est fou d'avoir cette...
La mémoire du monde.
La mémoire du monde qui habitait ce jeune homme étincelant. Ces jeunes gens, parce qu'ils ont été plusieurs, comme ça, on veut partir de Jésus-Christ, quoi. Jésus-Christ, Rimbaud, Jimi Hendrix, ces jeunes gens qui ont créé quelque chose de si fort, de si universel, de si flamboyant, définitif aussi. Définitif aussi, parce que il y a eu avant Rimbaud, il y a eu avant Jésus, il y a eu avant Jimmy, mais il y a eu après Jésus, après Rimbaud et après Jimmy, quoi.
Là, on parlait tout à l'heure de mêler des références diverses. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre Jimi Hendrix, Arthur Rimbaud et Jésus, on est dans une sorte de grand syncrétisme.
Oui, un grand syncrétisme qui ne m'étonne pas de la part de Richard Bohringer. Et en ce qui concerne Rimbaud, si on étudie bien la chose, il reste une image, quasiment une image de lui, comme si elle était déjà préparée à être au pochoir, à être déjà placardée sur les murs. Et ça, moi, j'aime aussi cette idée, et c'est souvent le cas pour un héros, qu'une image s'impose. Que cette image-là va être archétypale. Et ça, je trouve que c'est nécessaire.
Ça devient presque une icône.
C'est une icône. Et s'il n'y a pas, on pourrait presque dire, s'il n'y a pas cette image, je pense qu'il y a des héros qui n'existent pas parce qu'il n'y a pas eu cette image iconique qui a imposé sa figure et qui lui a donné cette permanence et cette éternité.
Vous parlez pas beaucoup d'anti-héros. Ils sont tous positifs, quasiment.
Ils sont, oui, parce que c'est presque un choix. Mais en même temps, quand on est dans cette histoire de France de cancres, j'allais dire qu'on est à un âge où
c'est les cancres comme on les aime, hein, c'est-à-dire plein d'imagination et de poésie.
Mais j'ai la faiblesse de croire qu'ils le sont, ou en tout cas qu'ils le deviennent au contact de toutes ces, parce qu'ils ont beaucoup de temps. On leur laisse beaucoup de temps au piquet pour faire autre chose que d'être configurés, comme les petits camarades. Et les anti-héros, ils sont arrivés un petit peu, j'ai presque dire, moi, pourtant Bonaparte ou Napoléon a été un anti-héros pour moi, qui était ce petit gamin Carteron et qui avait une décence martiniquaise. Et pour moi, Napoléon, et c'est celui qui avait aboli l'abolition de l'esclavage, donc il l'avait rétabli. C'est celui qui a mis Toussaint Louverture au fort de Choubourg. Donc il y a du côté de Napoléon, il y avait quelque chose qui coinçait un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit plus tard un roman pour me rapprocher un petit peu de lui et mieux le comprendre.
Je continue à feuilleter votre album, Daniel Picouli, nos histoires de France. J'en suis arrivé à la Première Guerre mondiale, à Douaumont, au Chemin des Dames et aux visites de Clémenceau dans les tranchées. Ce qui est très fort lorsqu'on regarde ces images, c'est qu'on est loin de l'image d'Épinal. Ce sont de véritables instruments, ce sont quasiment des affiches de propagande qui étaient proposées à l'imaginaire scolaire.
Oui, absolument. Et surtout autour de la guerre de 14, qui a été quand même l'image de la guerre de 14 a été censurée. C'est-à-dire que les Sentiers de la Gloire de Kubrick ont été interdits en France jusqu'à très très tard. C'est-à-dire que l'idée de mutinerie, pourtant qu'on nous racontait dans le roman familial, à savoir les exemples de ceux qui se tiraient une balle dans le doigt, de ceux qui tout ça, ça existait. Moi, on m'en avait parlé. Et ça n'existait pas dans les livres d'histoire. Et ça existe bien évidemment dans des films comme ceux de Kubrick. Donc c'est cette guerre de 14-18. Et c'est étonnant parce que ma fille, qui est en quatrième, a eu cette période-là. Et je lui ai fait, je ne veux pas les Sentiers de la Gloire parce que j'en disposais pas, mais un long dimanche de fiançailles.
Oui, quelle merveille.
Voilà, qui dit plus sur la guerre de 14, son horreur et sa réalité, que beaucoup de discours et de cours d'histoire. Et je trouve que n'importe quel professeur devrait commencer par voir ce film avec sa classe.
Je suis ravi que nous achevions cette émission sur un hommage à Sébastien Japrisot qui nous manque beaucoup.
Ah, bien sûr. Oui,
merci beaucoup, Daniel Picouli, de nous avoir fait rêver. Je rappelle donc le titre de ce très bel album. Ça s'appelle Nos histoires de France et c'est chez Houellebecq. Merci beaucoup.
Merci à vous.